VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui en ce mardi 19 mai 2020. Une émission préenregistrée en télétravail en raison du Covid-19. À la une de l'actualité ce soir. Nouvelle attaque meurtrière au Niger. Des hommes armés ont visé la nuit dernière la base militaire de Glabrine dans la région de Diffa. Au Nigeria, les groupes djihadistes multiplient les attaques à l'approche de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Le chef du gouvernement du Lesotho confirme sa démission, Thomas Taban, est sur la sellette depuis l'assassinat de son ex-femme. Dans la tranche magazine, plein feu sur les élections générales prévues demain au Burundi malgré la pandémie du coronavirus.
Les élections qui peuvent déclencher une guerre civile atroce.
Le président américain accuse l'OMS d'être une marionnette de la Chine et menace de lui couper les vivres. Pour de bon, pour Pékin, Donald Trump cherche à se soustraire à ses obligations envers l'agence onusienne. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Niger, la base militaire de Glabrine, dans la région de Diffa, a été attaquée la nuit dernière. Au moins 12 soldats ont été tués et une vingtaine de blessés. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'attaque contre la base militaire de Glabrine a eu lieu hier soir. Il y a eu plusieurs morts et les assaillants ont emmené du matériel, selon Mara Mamadou, membre de la société civile de Diffa. Un élu local a confirmé l'attaque par des hommes armés, probablement des combattants de Boko Haram, selon lui. Diffa, dans l'extrême sud-est du Niger, a été ciblée à plusieurs reprises par des djihadistes. Samedi, des roquettes sont tombées sur la ville et le 3 mai, d'intenses combats ont opposé l'armée nigérienne et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest autour du pont de Douchi. Deux soldats nigériens ont été tués selon le ministère de la Défense. Le 13 mai, le Niger a affirmé qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués dans deux opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérian. Fin octobre 2019, cette même base militaire avait été attaquée et 12 soldats nigériens avaient été tués selon les autorités nigériennes.
Au Nigeria, les groupes djihadistes ont mené plusieurs attaques dans le nord-est du pays à l'approche de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan prévu ce week-end. Hier soir, les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi la ville de Dapchi dans l'état de Yobe, provoquant des combats avec l'armée. On dénombre au moins un mort et trois blessés parmi les soldats et cinq morts chez les insurgés. Toujours hier, deux femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Kanduga, dans l'état voisin du Borno, tuant deux personnes chez un milicien engagé dans la lutte anti-djihadiste. Plutôt, des combattants de Boko Haram avaient aussi attaqué le village de Kotikiri, toujours dans l'état du Borno, tuant un habitant et enlevant un éleveur avec ses 150 bovins. L'ONG américaine Human Rights Watch accuse ce mardi les autorités de la République démocratique du Congo d'avoir tué en avril dernier au moins 55 personnes, adeptes d'un mouvement séparatiste politico-sectaire. D'après l'ONG, les forces de l'ordre ont eu recours à plusieurs reprises à une force létale excessive contre des adeptes du Bundudia Congo du 13 au 24 avril à Kinshasa. Et dans la province voisine du Congo central, le ministre des Droits humains, André Lipté, affirme que l'affaire est entre les mains de la justice militaire, les auditions ont été faites et l'instruction est secrète. Le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana ont appelé ce mardi les pays d'Afrique australe à prêter assistance au Mozambique voisin contre l'insurrection djihadiste qui sème depuis 2 ans et demi la terreur dans l'extrême nord du territoire mozambicain. Réunis à Harare, les chefs d'État de ces pays ont exhorté la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, à soutenir le gouvernement mozambicain dans son combat contre les terroristes et les groupes armés. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, a officiellement présenté sa démission aujourd'hui, un départ qui met un terme à la crise politique provoquée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Abdourahmane Dia.
Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le travail dont vous m'avez chargé n'est peut-être pas achevé, mais que le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la vie publique et mes fonctions, a déclaré M. Tabané lors d'un discours télévisé Au pouvoir depuis 2017, M. Tabané, 80 ans, avait annoncé hier son départ à la retraite lors d'une brève intervention devant la presse. Il est sur la sellette depuis que la justice l'a soupçonné au début de l'année d'avoir participé à l'assassinat de son ex-femme quelques jours avant de prendre ses fonctions. Sa nouvelle épouse est inculpée du meurtre. Il a brièvement fait sortir l'armée dans la rue, poussant l'Afrique du Sud à engager une médiation. Il a fallu que sa coalition lui retire son soutien il y a une semaine et annonce une réunion du Parlement le 22 mai pour approuver la nomination d'un successeur pour que Thomas Tabané finisse par rendre les armes.
En Algérie, les autorités ont décidé de rendre le port du masque sanitaire obligatoire à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr. Plus de 88 200 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués sur le continent africain, dont 2835 décès. Également dans l'actualité, deux migrants d'origine sénégalaise et ivoirienne ont été mortellement blessés à l'arme blanche la nuit dernière dans un centre d'accueil pour migrants en région parisienne. Une bagarre a eu lieu dans le foyer où étaient hébergés le Sénégalais de 42 ans et l'Ivoirien de 29 ans. L'origine du différend reste pour l'instant inconnue. Le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre. Le Malien de 35 ans a déjà été condamné pour des faits de violence et a des antécédents d'hospitalisation pour troubles psychiatrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 4 816 000 cas d'infection de Covid-19 ont été répertoriés dans le monde, avec au moins 318 517 morts. Les derniers développements avec Eric Manirakiza.
La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie. Les marchés européens ont salué ces annonces avec des hausses spectaculaires. L'esplanade des mosquées à Jérusalem rouvrira après l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, prévu ce week-end, a annoncé mardi l'organisme gérant les lieux saints musulmans dans la ville sainte. L'Iran n'a annoncé mardi aucun décès lié au nouveau coronavirus dans un tiers de ses provinces, une première depuis le début de l'apparition du coronavirus dans le pays. Dans le Golfe, le Koweït impose un confinement total jusqu'au 30 mai, suspendant toutes les activités à l'exception des plus essentielles. Au Chili, la moitié des 50 sénateurs et 4 ministres ont été placés en quarantaine après avoir été en contact avec des parlementaires contaminés au Covid-19.
Les passes d'armes entre Washington et Pékin s'intensifient sur la gestion de la crise du coronavirus par l'OMS, dont les 194 pays membres ont repris leur débat ce mardi lors d'une téléconférence inédite. Ekia Badou.
La Commission européenne a soutenu mardi l'OMS après les menaces du président Donald Trump de couper définitivement les vivres à cette agence, dont il a maintes fois critiqué la gestion de la crise du coronavirus. Le président américain reproche à l'OMS d'avoir ignoré des rapports sur l'émergence du virus, datant selon lui de décembre, et d'être trop indulgente avec les autorités chinoises. Donald Trump a suspendu mi-avril le financement américain et a menacé lundi de le geler indéfiniment si l'agence onusienne ne s'engageait pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours. De son côté, Pékin accuse M. Trump de chercher à se soustraire à ses obligations envers l'organisation. Malgré tout, les 194 pays membres sont parvenus à un accord pour une évaluation indépendante de la réponse de l'OMS à la pandémie.
Et face à ces menaces de boycott américaines, les pays membres de l'OMS ont décidé ce mardi de lancer une évaluation indépendante de la réaction de l'agence onusienne à la pandémie. Les 194 pays membres ont convenu de démarrer au plus tôt un processus d'évaluation impartiale, indépendante et complète de l'action internationale engagée face au coronavirus. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a officiellement demandé ce mardi une dérogation pour ne pas comparaître à l'ouverture de son procès ce dimanche, et ce malgré l'avis du ministère de la Justice qui réclame sa présence. Le procureur général du pays l'a inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Benjamin Netanyahou, qui vient d'être reconduit au pouvoir à la faveur d'un gouvernement d'union avec son ex-rival électoral Benny Gantz, plaide à son innocence et dénonce un complot ourdi contre lui. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Sans plus tarder, on condense des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Ekabadou.
La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique avait convoqué lundi une réunion entre les ministres africains des Finances sur les effets de la pandémie de Covid-19. Dans ses remarques, Mme Vera Songwe, secrétaire exécutif de la CEA, souligne que les pays africains se sont engagés à respecter toutes leurs obligations envers les créanciers en temps opportun et veulent maintenir l'accès aux marchés internationaux des titres des créances pendant la période de reconstitution. Le projet Grand Tortue Aménim, sur lequel Mauritaniens et Sénégalais fondent leurs espoirs de devenir des pays producteurs de gaz, voit son calendrier bouleversé. BP prévoit un retard d'un an en raison de la pandémie. La compagnie pétrolière devrait prendre livraison de l'installation en 2022 et la louer pendant 20 ans pour liquéfier le gaz de son grand projet Greater Tortue Aménim à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. L'usine doit produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. En Tanzanie, la compagnie minière Orcops Limited a annoncé mardi une levée de fonds de 13,5 millions de dollars australiens via le placement de 45,2 millions d'actions ordinaires. Ces fonds augmenteront la trésorerie de la société à 26 millions de dollars australiens et lui donneront les moyens nécessaires pour faire avancer ses différents projets. Il s'agit entre autres de la poursuite de l'étude de faisabilité du projet aurifère Nyanzaga dans le nord-ouest du pays.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Accord trouvé entre la Fédération nigériane de football et le technicien Guenotro. Le germano-français va signer la semaine prochaine une prolongation de son contrat de sélectionneur de l'équipe du Nigeria. Ce nouveau contrat sera d'une durée de 2 ans avec comme objectif pour or de qualifier les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le Mondial 2022. Le contrat actuel du sélectionneur expire le mois prochain. Ror, âgé de 66 ans, entraîne depuis 2016 l'équipe nationale du Nigeria, qui l'a menée jusqu'aux phases finales du Mondial 2018 et de la CAN 2019 en Égypte. Le Nigeria a terminé à la 3e place de cette CAN. Et puis, l'ancien entraîneur du Kenya, Sébastien Minier, réclame des arriérés de salaire et menace de saisir la FIFA. « J'ai été assez patient et amical, mais la fédération l'a pris pour argent comptant », a déclaré le technicien français au journal Gaulle. Celui qui a quitté son poste en août 2019 a ajouté, je cite, « Nous avions un accord et depuis plusieurs mois, ils ne l'ont pas honoré, ils ne sont même pas honnêtes avec moi. C'est visiblement leur habitude quand je vois qu'ils n'ont toujours pas payé Bobby Williamson et Adele Amrouche. Ces deux derniers sélectionneurs ont traduit le Kenya devant la FIFA pour non-respect des obligations contractuelles. Pour Amrouche, le Kenya avait jusqu'au 18 mai pour payer le coach au risque de se voir retirer des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Minier a rejoint le Kenya en mai 2018 et a réussi à qualifier le pays pour la CAN 2019 après 15 ans d'attente. Il est désormais le sélectionneur de la Guinée équatoriale. En Italie, Cristiano Ronaldo a effectué son retour au centre d'entraînement de la Juventus Turin après plus de 2 mois d'une absence due au confinement. Avant de prendre part à son premier entraînement collectif, le quintuple ballon d'or de 35 ans doit se soumettre à une visite médicale et à des tests physiques. Les joueurs de la vieille dame ont repris l'entraînement individuel le 4 mai. CR7 était resté au Portugal pendant le confinement. Hier, la Fédération italienne de football a suspendu jusqu'au 14 juin, inclus l'ensemble de ses compétitions. Cela condamne la possibilité de voir le championnat reprendre le 13 juin, comme le souhaitait la Ligue. Toujours en Europe, le Real Madrid, l'Inter Milan et le Bayern Munich vont organiser en 2021 une Coupe de la Solidarité lors de 3 rencontres en présence du public. L'objectif est de récolter des fonds pour les services sanitaires d'Espagne et d'Italie qui luttent contre le coronavirus. Lors de chaque rencontre, le club hôte invitera le personnel soignant de la ville à venir assister à la rencontre pour les remercier de leur lutte contre la pandémie. Les 3 clubs disent vouloir témoigner leur solidarité, leur respect et leur gratitude au personnel soignant.
Merci Yacouba.
aujourd'hui VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui en programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à la tranche magazine. Gros plan d'emblée sur les élections générales qui ont lieu demain au Burundi en dépit de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin qui devra désigner le successeur de Pierre Nkurunziza oppose deux anciens rebelles, l'opposant Agathon Rwasa et le général Évariste Ndayishimiye, le candidat du pouvoir. Quels sont les enjeux de cette élection dans ce petit pays de 11 millions d'habitants secoués par la violence depuis plusieurs années? Bagasekura a joint Athanase Karayenga. Il est journaliste et analyste politique du Burundi, basé à Paris.
Ce sont des enjeux énormes, absolument énormes. C'est des élections qui peuvent déclencher une guerre civile atroce. Des élections aussi qui peuvent donner une chance absolument nouvelle au Burundi de tourner la page du CNDD-FDD pacifiquement, démocratiquement. Nous sommes vraiment, au bord du gouffre, où nous aurons la chance de ne pas faire le pas d'avant, où nous prendrons le malheur de faire ce pas d'avant, et ça sera vraiment l'apocalypse. Ceci dit, le pire n'est jamais certain, mais le risque est énorme, absolument énorme.
Alors, pour beaucoup de gens, le Burundi est un pays à un système fermé. Il n'y a vraiment pas de chance pour Agathon Rwasa de gagner. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Non, je crois que c'est excessif parce que c'est vrai que le pouvoir a fait tout pour verrouiller, a fait tout pour faciliter la fraude, a utilisé tous les moyens pour dissuader, pour dire à tous les autres candidats, pas seulement à Agathon Rwasa, qu'aucun autre candidat ne peut briguer légalement la présidence de la République. Mais on a vu tout de même un peuple absolument mobilisé, un peuple qui croit beaucoup à la démocratie. C'est tout de même une très belle image que le Burundi peut envoyer dans le monde entier. Le prix à payer.
Oui. Alors, un mot sur ces deux candidats qui viennent tous du maquis.
Oui, c'est un passage malheureusement obligé, parce que le maquis a produit un parti politique qui avait gagné en 2005, le CNDD-FDD. Le maquis a produit aussi un parti, un courant politique, je ne sais pas, le PUTU, FNL, mais qui est devenu le CNL. Mais tout de même, le parallèle s'arrête là, parce que le candidat ici du PUTU, du CNL, donc Agathon Rwasa, a fait une métamorphose absolue. Il a complètement changé, il n'a plus du tout le discours du maquis, il parle du Burundi ouvert à tous les citoyens, un Burundi apaisé, un Burundi qui fait rentrer les réfugiés, un Burundi qui se lance dans des projets de développement économique, parce qui dénonce la paupérisation, alors que en face, c'est malheureusement le bilan accablant du CNDD-FDD que Évariste Ndayishimiye porte.
Athanase Karayenga, journaliste et analyste politique du Burundi, basé à Paris.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les artistes sont durement touchés par le Covid-19. De la perte de monuments comme Manu Dibango au chômage forcé, le monde des arts est l'un des secteurs qui souffre le plus de cette pandémie. Et pourtant, cela ne les empêche pas de mettre leur notoriété au profit de la lutte contre la maladie en s'activant dans la sensibilisation. Comment les artistes vivent-ils cette situation causée par le nouveau coronavirus? Sont-ils soutenus par leur gouvernement? Nous allons en discuter avec nos invités le jeudi 21 mai 2020, 19h30. Universel sur VOA, 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 VOA.
retour ce soir sur le récent drame de Fadane Gourma au Burkina Faso. Des proches ont fait état hier d'exécutions sommaires par les forces de l'ordre burkinabé au sujet de la mort de 12 personnes interpellées pour suspicion de faits de terrorisme. Le 13 mai dernier, le procureur de Fadane Gourma, Judikael Kadeba, avait annoncé la mort dans la nuit de ces 12 personnes, parmi 25, dans leur cellule de la gendarmerie à Tanwal-Bougou. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a déjà réclamé une enquête spéciale et la saisie de la justice internationale. Bagassé Koura s'est entretenu avec Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études politiques de Bamako.
Déjà, je pense que ce sont les communautés peut-être que majoritairement peules qui sont victimes de ces abus, de ce qui est qualifié d'exaction par certains acteurs humanitaires, mais c'est pas que les peuls, c'est toutes les communautés qui sont établies dans ces localités-là qui sont aujourd'hui victimes de ces abus de forces de défense et de sécurité. L'explication, c'est que ces forces de défense et de sécurité sont déployées dans des localités, dans des environnements où ils ont très peu de connaissances de la sociologie, et le fait que la menace perdure, les dysfonctionnements même au sein des appareils d'État font qu'aujourd'hui on assiste à ces formes d'abus et ces formes d'exactions, que ce soit au Mali ou que ce soit au Burkina. Et il est important de rappeler que c'est vrai que majoritairement ces victimes sont des peuls, mais ce ne sont pas les seules victimes de ces abus.
Alors, plus il y a des exactions, plus ça rend le travail de sécurisation difficile, non?
Oui, absolument. Et surtout qu'on est dans un contexte où il est impératif d'avoir le soutien, l'accompagnement, la collaboration des communautés dans le cadre de la lutte et même de la prévention de l'extrémisme violent. Donc, ce sont ces actions ou ces faits qui sont qualifiés d'abus ou d'exactions contribuent à exacerber les rapports déjà difficiles entre communautés et FDS dans ces localités. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qui se passe. Le premier, c'est que la tentation est grande quand ça se passe au niveau sur le terrain d'étouffer ces affaires-là. Ensuite, le traitement politico-médiatique qu'on fait de ces exactions-là n'est pas forcément productif pour essayer de trouver les solutions, parce que en pointant du doigt ces exactions d'un point de vue médiatique, on ne fera que braquer davantage les États. Et il est très important de réfléchir sur comment on est arrivé à cette situation. Ce n'est pas en pointant du doigt les responsabilités, que ce soit des États ou des FDS, qui fera que c'est de tel type ou de faits de ce type-là s'arrêteront, mais véritablement en prenant en compte, comme je le disais, la non-connaissance ou l'incompréhension du contexte et de l'environnement dans lequel intervient ces FDS, c'est une partie de solution, parce que finalement, c'est le résultat, ces exactions ou ces abus sont le résultat d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et qui s'est ancré dans des pratiques au fil du temps.
Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études politiques de Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h/24.
La décision du Sénégal de rouvrir les lieux de culte, alors que le pays est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus, a divisé les communautés religieuses. Certains musulmans ont salué la possibilité de prier à la mosquée au cours de la dernière semaine du mois du Ramadan, mais d'autres craignent qu'il soit trop tard. Le pays compte environ 2500 infections et au moins 25 décès. Un reportage d'Estelle Djanjo à Dakar, relaté par Nathalie Barge.
La réouverture des mosquées pour la dernière semaine du Ramadan a été bien accueillie par des milliers de fidèles à la mosquée Emma Sadikou Jinan lors de la prière du vendredi. Même si les exigences relatives à la distanciation sociale et aux mesures sanitaires restent en place, les musulmans sénégalais ne sont pas tous désireux de retourner à la prière de groupe, remarque Adja Famalo, coordonnatrice de la salle de prière des femmes.
Beaucoup de personnes qui ont peur de cette maladie, qui ont peur de venir attraper ou bien mais ils ont peur. Parce qu'à cette heure-là, la mosquée était pleine. Mais maintenant, on vient petit à petit. Bon.
De nombreux musulmans comme Philibaï, un programmeur de 26 ans, préfèrent continuer à prier chez eux pour réduire les risques de contracter ou propager la maladie Covid-19. Pour lui, la prière de groupe se fera en ligne jusqu'à ce que le coronavirus soit sous contrôle.
C'est un moyen, effectivement, qui permet d'être, de faire son ramadan en sécurité, de manière sûre. Mais aussi, je me dis que ça apporte une certaine dose de spiritualité en plus à ce ramadan-là. Parce qu'en étant seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué et qu'il y a des gens qui vivent des choses.
Plusieurs imams ont choisi de ne pas rouvrir les mosquées par souci de contrôle des foules, comme Amadou Kanté, imam de la mosquée.e.
Nous, on a préféré être prudents pour que, d'ici le ramadan, on va voir comment ça évolue, qu'est-ce que les autorités sanitaires nous disent, et en ce moment, on pourra, pourquoi pas, on pourrait même reporter encore la reprise si les cas deviennent trop critiques. Mais par contre, si on dit qu'il y a une baisse, qu'il y a la dynamique n'est pas à la hausse, on pourrait...
Les églises catholiques du Sénégal ont également choisi de fermer leurs portes. Mais la fermeture des lieux de culte n'empêche pas les croyants de prier ardemment pour la fin de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé la vie sociale des Sénégalais comme celle du reste de la population mondiale.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que les États-Unis et d'autres pays commencent à lever petit à petit les restrictions mises en place pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le quotidien post-quarantaine sera marqué par de nombreux changements. D'après les experts, les masques et la distanciation sociale ne disparaîtront pas d'aussitôt et même si les salles de sport et les restaurants commencent à rouvrir, leur capacité sera réduite de moitié. Ces mesures et d'autres feront partie de la nouvelle normalité mondiale, du moins jusqu'à ce qu'un vaccin contre la maladie soit trouvé. Dilidico.
Plus de la moitié des États américains lèvent les mesures de confinement et rouvrent lentement leur économie. De nombreuses plages en Floride et en Californie sont ouvertes, de même que les restaurants, les magasins, les salons de beauté et les salles de sport à travers le pays. Mais pour rouvrir, les commerces doivent souscrire à des règles strictes, distanciation physique et port de masques faciaux. Écoutons Summer Maggie, doyenne de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de New Haven. Si j'allais dans un restaurant et que je voyais que la réceptionniste ou le serveur ne porte pas de masque ni de gants, je n'y mangerais probablement pas. Dans les salons de beauté, les magasins et les transports en commun, les masques sont indispensables. Cette pratique, apparue en réponse à la pandémie, ne va pas disparaître d'aussitôt. Lors de pandémies précédentes, certaines mesures qui paraissaient étranges au début sont devenues des normes sociales et des habitudes. James Holland Jones travaille à l'Institut pour l'environnement Sanford Woods.
Spitting was just a natural part of the American urban landscape and
autrefois, cracher en public était un comportement normal aux États-Unis, mais cela a disparu suite à la grippe espagnole de 1918. De même, avant, les fontaines à eau étaient accompagnées d'une tasse commune. Les gens trouvaient ça normal, mais cela a complètement disparu. Les pandémies ont eu des effets durables. La distanciation sociale est une pratique qui ne disparaîtra probablement pas bientôt, que ce soit dans une salle de sport, à la plage ou lors d'une promenade dans le parc. Écoutons à nouveau Summer Maggie, doyenne de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de New Haven. Ce qui est compliqué dans les salles de sport, c'est qu'il est difficile d'y porter un masque. Vous y respirez fort. Vous ne voulez pas ne pas être en mesure de respirer pendant que vous courez ou que vous utilisez un stepper. Je pense que cela va être un défi. Mais si les salles de sport parviennent à espacer suffisamment les machines, alors nous pourrions probablement les rouvrir en toute sécurité. Donner la main sera également mal perçu, tout comme les accolades et les bises. Selon les médecins, si quelqu'un ignore ces nouvelles règles, il est important de lui expliquer pourquoi vous tenez à garder vos distances. Malgré la levée de certaines mesures de confinement, les médecins encouragent les gens à rester chez eux et à éviter les déplacements inutiles. Selon Summer Maggie, cela ne va pas durer éternellement. Elle a dit, je pense que dans un an ou deux, nous aurons un vaccin et nous pourrons reprendre une vie normale. Il est important que les gens se souviennent que cela ne durera pas toujours. Cela fait environ 2 mois que la plupart des Américains sont confinés à la maison. Avec l'été qui approche, un bon nombre d'entre eux sont très impatients de sortir et de reprendre une vie normale. Rien ne peut dissuader les plus téméraires ni les masques, ni les mesures de distanciation sociale.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagneux. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous.